France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
La loterie, c'est le truc à la papa, le hasard, c'est un truc de boomer, mais les paris sportifs, en revanche, attends, je m'y connais en foot, j'ai le nez dedans toute la journée, il suffit de réfléchir un peu et c'est tout bénef. C'est tellement basique, hélas, ce raisonnement que je pourrais être influenceuse pour paris sportifs, ça fait tellement appel à des choses simples qui tombent pile pour des jeunes gens, le plus souvent précaires en général, fragiles de toute façon. Flatter leur connaissance en sport, surfer sur cette illusion d'un contrôle sur le hasard, promettre argent et promotion sociale. C'est super simple, ça marche très fort, les paris sportifs sont en augmentation exponentielle, les boîtes de paris sont en concurrence, il y en a partout, et les publicités. Si vous y échappez, c'est que vous vivez dans une cave, la télé, le net, évidemment, les influenceurs, le gars que vous regardez tous les jours, parler de foot ou de basket, sponsorisé par des parieurs sportifs, les joueurs de foot le sont aussi. En réalité, 1% de joueurs gagnent plus de 1000 euros par an. En réalité, 63% du produit des paris sportifs provient de joueurs qu'on l'on sait déjà addicts. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas le petit avertissement dans un coin qui va stopper l'addiction, mais on en parlera quand même de cet avertissement obligatoire. Il faut aller plus loin. C'est en tout cas ce que dit Addiction France dans son rapport sorti hier. Bien plus loin, c'est par exemple l'Australie qui a mis une restriction horaire sur les pubs pour les jeux d'argent. C'est la Belgique qui a interdit les pubs en ligne également d'ailleurs. C'est l'Italie qui essaye, c'est l'Espagne qui essaye, c'est le Royaume-Uni aussi, et croyez-moi, c'est pas facile. Surtout quand les sociétés de paris en ligne sponsorisent des clubs de foot. Et là, c'est le diable qui se mord la queue. C'est le cas par exemple en Grande-Bretagne. En France, on a une loi qui est presque toute trouvée, c'est la loi Evin, celle qui restreint très sévèrement la pub pour l'alcool. Alors, est-ce qu'on pourrait l'adapter aux paris sportifs et comment ? Dites-le nous, parlez-nous de votre rapport aux paris en ligne, de l'addiction peut-être qui vous aide, qui vous guette et vous le sentez, ou de l'addiction qui a déjà atteint l'un de vos amis ou quelqu'un de votre famille peut-être. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pierre, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu, Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir Fabienne.
On vous écoute, Pierre.
Oui, alors moi je voulais témoigner juste d'une situation, parce que moi je maîtrise pas en fait ce domaine-là de la dépendance au jeu. Moi je vis en colocation avec un gars que j'ai rencontré en début d'année, qui a été recruté dans notre coloc, et j'ai découvert en mai qu'il était en fait addict au jeu, et qu'il claquait tout son argent, toute sa paye là-dedans. Et moi il avait des loyers de retard auprès de moi, mais il sortait tout le temps des excuses, comme quoi il n'avait pas accès à ses comptes bancaires ou des choses comme ça. Et jusqu'au jour où je suis tombé sur le poteau rose et où j'ai découvert qu'en fait tout son argent partait chez Winamax, PMU et compagnie, quoi.
Et du coup, est-ce que vous l'avez confronté ? Vous avez discuté avec lui ?
Ouais,
vous les avez essayé de l'orienter vers quelque chose ou pas ?
Ouais, tout à fait. Dès le début, je l'ai confronté quand je suis tombé sur l'histoire. Il a fait, on va dire, amende honorable en façade. Il s'est fait interdire de jeu, directement, le soir même, auprès de l'ANJ, un organisme national. Ce qui fait qu'il a plus accès au compte Winamax ou au compte sur lequel il faut se loguer. Mais j'ai découvert une semaine plus tard qu'il continuait à jouer, mais par contre dans tout ce qui était PMU et compagnie. Mm-hmm. Parce qu'en fait, il y a rien qui limite en fait les jeux d'argent dans les débits de tabac, les choses comme ça. En fait, on peut pas se faire interdire à ce niveau-là.
On peut pas se faire interdire de débits de tabac, logiquement. Pierre, merci beaucoup parce que c'est une belle introduction que la vôtre et ça met quelques crans dans la discussion que nous allons avoir ensemble jusqu'à 20h. Autour de la table, il y a Myriam Savy. Bonsoir.
Bonsoir.
Du plaidoyer de l'association Addiction France. Il y a Thomas Amadieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et spécialiste des jeux d'argent. Myriam Savy, ce qui est terrible, et il y en a plein des exemples comme ça en fait, c'est que on essaye de sortir par la porte, mais on peut retourner par la fenêtre à l'addiction. C'est super simple, tout nous tend les bras en fait, il suffit de pas grand chose en fait.
Oui, c'est le problème du pari sportif et du pari sportif en ligne qui s'est développé très fortement ces dernières années. On peut jouer partout, tout le temps, sur n'importe quoi. Donc au début, on commence avec des matchs à gros enjeux et puis ensuite, on est enfermé dans une spirale et on se met à parier sur n'importe quoi, avec toujours la recherche de la sensation forte qui au bout d'un moment ne vient plus. Et ce qu'on va chercher alors, c'est à se refaire, à essayer de regagner tout cet argent qu'on a perdu. Mais en fait, on ne fait qu'augmenter le problème.
Mais alors, la différence entre l'addiction au jeu d'argent et l'addiction au pari sportif, c'est-à-dire, il y a cette dimension supplémentaire qui est de dire, non mais je connais le foot, Donc ce sera facile, en fait. Comment est-ce qu'on fait pour détourner les gens de cette illusion de simplicité et d'expertise ?
Le pari sportif, c'est effectivement un jeu d'argent, mais comme il est sur un sport et que les personnes pensent pouvoir maîtriser le sport parce qu'elles connaissent les équipes, parce qu'elles soutiennent leur équipe, donc elles sont persuadées que l'équipe va gagner, on est sur cette illusion un peu de l'expertise et on se rend plus compte qu'on reste sur un jeu d'argent et de hasard et qu'en fait il est quasiment impossible de prédire à l'avance le résultat d'un match.
Thomas Amadieu, moi je trouve ça très émouvant finalement parce que le colloque de notre auditeur essaye, il se fait interdire, on ne peut pas se faire interdire partout. Comment on fait quand on en est là ?
C'est le vrai problème de la loi française, c'est-à-dire que on peut se faire interdire, mais uniquement en ligne ou dans les lieux, dans les casinos, on va avoir un contrôle d'identité. Lorsqu'on dans les bureaux de tabac, dans les points de vente FDJ, on n'a pas de contrôle d'identité et il n'est pas respecté. Donc l'interdiction, pour ceux qui veulent se faire interdire de jeu, eh bien, on ne les protège pas d'eux-mêmes, finalement, alors qu'ils font la démarche. Et puis, ça pose aussi un autre problème, cette absence de contrôle d'identité, c'est le jeu des mineurs. En principe, les buralistes doivent contrôler l'âge des joueurs, parce que c'est interdit de jouer avant 18 ans, et là, pour le coup, c'est pas non plus contrôlé.
C'est très contre-intuitif, mais est-ce que ce serait pas mieux, finalement, si tout était en ligne ? Parce qu'effectivement, au moment où on s'auto-interdit, comme l'a fait le colloque de Pierre, il n'y a pas moyen d'y revenir, en fait. Ou est-ce que c'est, de toute façon, pire, en fait, lorsque c'est en ligne, parce que on a un accès qui est super simple.
Le problème du jeu en ligne, c'est qu'on sait qu'il est plus addictif, en réalité, parce que c'est ce qui a vraiment changé depuis l'ouverture à la concurrence et la digitalisation
2010,
des paris sportifs. 2010, ouais. Quand on regarde les chiffres, depuis 2010, en 15 ans, on a eu une explosion de la pratique des paris sportifs, avec un chiffre d'affaires des opérateurs de jeux, de l'industrie des paris sportifs, qui a véritablement explosé. Et ça s'explique assez bien aussi par ce qui se passe quand on joue en ligne. On a accès sur son smartphone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand je dis 24 heures sur 24, c'est réellement, c'est-à-dire que le joueur a la possibilité aujourd'hui de jouer le soir sur la Ligue des Champions, on en a parlé tout à l'heure, mais s'il a envie de continuer au milieu de la nuit à jouer sur les matchs qui ont lieu en Amérique, c'est possible. Et puis ensuite, au petit matin, il va pouvoir parier sur le badminton en Asie, etc. Donc on a une intensification de l'offre qui est inédite dans l'histoire.
Quand on s'interdit soi-même, comme l'a fait le colloque de Pierre, est-ce qu'on peut se remettre sur le... Est-ce que c'est aussi simple de se remettre sur le tapis, si je puis dire, que de s'interdire, ou est-ce qu'il faut faire une vraie démarche pour avoir le droit de jouer à nouveau ? Comment ça se passe, en fait ? Vous savez ça, Thomas Amadieu, ou pas ?
Alors, dans le détail, la démarche, je la connais pas forcément dans le détail.
Parce que déjà, comment on fait pour s'interdire, d'ailleurs, sur toutes les plateformes ? Vous savez peut-être ça, vous, Myriam Savy ?
Alors, l'auto-exclusion, c'est un mécanisme qui se fait sur le site de l'Autorité nationale des jeux.
D'accord.
Et donc, qui permet, en fait, on s'auto-exclut une fois. Et puis ensuite, ça vaut pour tous les opérateurs. Mais ça ne veut pas dire qu'on va arriver à ne plus jouer. Et c'est bien le problème de l'addiction, c'est que, quelle que soit l'addiction, les personnes qui sont addictes, quand elles ont conscience qu'elles ont un problème, ça c'est déjà un pas à faire, elles savent que c'est pas bien et elles ont envie d'arrêter. Sauf qu'en fait, il y a un phénomène qui s'appelle le craving, c'est l'envie irrépressible de consommer un produit, consommer de l'alcool, ou consommer du jeu d'argent. Et donc, au moment où on a ce craving, l'auto-exclusion, ça ne marche plus. Donc, si on a vraiment envie d'aller jouer, on va pouvoir aller en point de vente ou on va trouver des parades. On sait que sur les plateformes en ligne, il y a le contrôle de l'identité, il est assez compliqué et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des mineurs peuvent s'inscrire sur des réseaux sociaux alors même que ça leur est interdit.
Et c'était le sens de ma question, j'imagine qu'on ne peut pas retourner en arrière et aller voir l'autorité des jeux en disant finalement je me suis trompé, je veux plus m'interdire. On est d'accord que ça c'est un signal d'alerte ou pas ?
Oui.
Est-ce que c'est vraiment un signal d'alerte ? Attention, cette personne est en danger parce qu'elle nous a demandé de revenir dans le circuit, en fait.
Oui, c'est un signal d'alerte, mais le problème de ces mécanismes d'auto-exclusion, c'est bien qu'ils existent. Quand on s'auto-exclut, c'est pour, je crois, un minimum de 3 ans. Le problème, c'est qu'on fait porter la responsabilité sur les joueurs. C'est la personne qui doit se rendre compte qu'elle a un problème. C'est à elle de faire la démarche. Alors qu'en fait, l'addiction, on sait très bien que c'est la relation entre une personne, un produit et dans un environnement. Et quand l'environnement, il est hyper incitatif, que vous avez de la publicité partout, vous avez envie de jouer. Donc, c'est pas juste la responsabilité de la personne, c'est la responsabilité d'abord de ceux qui vendent les produits addictifs.
Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir.
On vous écoute, Nicolas.
Eh ben, j'ai remarqué, parce que moi je vois surtout ces pubs pour les paris sportifs en regardant les matchs de foot, et j'ai l'impression qu'ils répondent à des codes très virilistes, que ça flatte ce côté-là, et je me demandais du coup si les paris sportifs, chez les jeunes en tout cas, touchaient plus la population masculine.
Merci beaucoup pour votre question, Nicolas, Thomas, Madieu. Je pense qu'on peut répondre oui, assez, sans trop se tromper, hein, notre ami auditeur.
Toutes les enquêtes montrent que la pratique est majoritairement masculine, de l'ordre de 85% d'hommes et 15% de femmes. Et c'est vrai que la publicité, du coup, identifie très bien le cœur de cible et donc va mettre en scène, l'auditeur a bien identifié ça, hein, on va mettre en scène un univers qui va convoquer un certain nombre de motivations qui vont séduire les jeunes. Alors, les jeunes hommes, ça va être par exemple le fait de pouvoir gagner le respect de ses pairs à travers la prise de risque, à travers le gain également, qui a un enjeu. Et donc, ça va beaucoup séduire les jeunes hommes, et en particulier les adolescents. Et c'est ça qui est problématique, c'est-à-dire que c'est un âge de la vie où on va chercher à gagner le respect de ses pairs. Et c'est là que ça devient particulièrement problématique. Justement, c'est cette mise en scène du gagnant, comme gagnant le respect de son entourage.
Ça a toujours été le cas d'ailleurs, parce que vous l'avez dit, hein, ça commence en 2010, l'explosion de ces choses-là, l'accès au net, la libéralisation. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ça a toujours été cette fibre-là qu'on a été chercher? Ou il y a aussi quelque chose qui nous parle de l'époque, en fait, où on va les chercher, ces valeurs-là, chez certains?
Ça n'a pas tout à fait, ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Et si on regarde un peu l'évolution de la publicité, alors certes, les jeux d'argent ont toujours ciblé finalement l'ascension sociale par le gain, qu'on se souvienne des publicités de la FDJ où finalement c'était une revanche sociale à travers le jeu d'argent. Là c'est différent, parce que la promesse des paris sportifs, ça va être vraiment cette idée de au fond de gagner de l'argent vite, rapide, facile, qui permet ensuite d'améliorer au fond son quotidien et de gagner le respect. Et en fait ça a basculé pas immédiatement en 2010, mais quelques années après, à la fin des années 2010, on voit une accélération de ces publicités avec une stratégie presque concertée, ou en tout cas ils sont imités entre opérateurs de jeux, pour cibler ces jeunes hommes, y compris donc issus des classes populaires, des quartiers populaires, et ça c'est très net à travers des mises en scène, l'utilisation, on va convoquer tout un imaginaire, des stéréotypes de les stéréotypes de la banlieue par exemple, etc.
Dans toutes les recommandations qu'il y a chez vous, Myriam Savy, il y a aussi l'idée d'essayer d'aller chercher les profils des influenceurs, en fait, donc ceux qu'on paye pour faire ce genre de pub. Et j'ai trouvé qu'évidemment l'idée était bonne, mais dans la foulée j'ai vraiment été tentée de vous dire, eh ben, bon courage. Parce que je dis ça parce que ces influenceurs, ils sont payés par ces sociétés de paris de toute façon. Et typiquement, pour agiter ce genre de choses, c'est pour ça que je vous posais la question auprès des jeunes gens, est-ce que vraiment on peut passer par ces influenceurs-là pour essayer de convaincre ceux qui deviennent addicts?
Alors, à Addiction France, dans le cadre de ce projet qui a donné lieu à ce rapport, on a contacté des créateurs de contenu, des influenceurs, pour leur dire que, en fait, tout ce qu'ils publiaient, puisqu'en plus on est sur des influenceurs très spécialisés. En fait, c'est des créateurs de contenu qui parlent que de paris ou de sport de manière générale, mais ils font pas de la publicité pour n'importe quoi. C'est vraiment très orienté paris sportif. Et on leur a dit qu'il y avait des risques d'addiction avec les paris sportifs. Ouais. On leur a proposé de se former, de se sensibiliser.
Et pardon, ils sont tombés de leur chaise, ou vous avez le sentiment qu'on vous a écouté, ou
Pas du tout. En fait,
voilà, vous venez, c'est terrible.
Non, il y en a 85%. En fait, ils ont pas répondu, alors ils nous ont répondu avec des messages parfois un peu agressifs, un peu menaçants, parce qu'en fait le cadre de régulation il n'est pas suffisamment fort, et on n'avait aucun moyen de pression en fait pour leur dire de ne plus faire de publicité.
Et j'imagine c'est pas comme ça qu'ils vous ont parlé ou allez savoir, mais c'est qu'est-ce que j'en ai à faire de toute façon, tant que la loi m'autorise à le faire et ces gens me payent et me payent bien, merci, au revoir, c'est ça qu'on vous a
et
dit.
Et puis en plus, et tout ce que je publie a été validé par les opérateurs, donc il y a aussi la responsabilité des opérateurs qui sont derrière ces influenceurs, et qui vont leur demander de faire la promotion de leur marque, et qui vont valider des contenus qui, par exemple, ne contiennent pas le message sanitaire alors que celui-ci est obligatoire.
Alors, est-ce qu'il a un sens, le message sanitaire? Parce qu'effectivement, il y a marqué partout, dans les publicités qu'on entend, je pense qu'on le dit même, y compris en accéléré, attention les jeux d'argent, etc. Ça a du sens, ça, ou pas?
Alors, c'est un message de...
Est-ce que c'est aussi efficace que fumais-tu sur un paquet de clopes, pour dire les choses?
Bah, c'est la même logique du message sanitaire. Après, on sait qu'en prévention, il faut différentes mesures, et donc ça, c'est une mesure. Nous, ce qu'on voit, c'est que cette petite mesure, effectivement, c'est pas celle qui va tout révolutionner, mais même celle-ci, qui est vraiment assez basique, celle-ci n'est pas respectée.
Mmh, vous n'avez rien dit, Thomas Amadieu, mais votre scepticisme est arrivé jusqu'à moi.
Non, mais c'est, je crois que la loi impose 7%, donc ça dit bien la proportion qui est allouée à la prévention, et le reste, c'est... un festival de messages incitatifs. Donc on voit bien qu'il y a une disproportion et c'est pas du tout opérant. Ça fonctionne pas. Et vous faisiez le parallèle avec la cigarette, c'est très juste. Les paquets, non seulement il y a fumé-tu, mais il y a aussi parfois des images.
Bien sûr, il y a des images, des paquets neutres. Ils sont tous devenus neutres.
Et on en est loin concernant les paris sportifs. Donc on peut imaginer qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'encadrement, finalement, dans la mise en avant des messages de prévention.
Alors, on va y venir aux solutions, mais je voudrais d'abord qu'on écoute le témoignage de Jules. Bonsoir, Jules.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Jules.
Alors déjà, merci beaucoup, parce que j'avais l'impression que c'était un sujet qu'on n'abordait jamais, mais alors jamais, que ce soit à la télé, à la radio, quoi que ce soit. On en fait la pub énormément, mais alors on n'en parle jamais des méfaits que ça peut représenter. Donc merci pour ça. Et voilà, moi je vous apporte mon témoignage, à dire que j'ai été accro au paris sportif pendant des années. Ça m'a mené à un point... de mon retour de crédit à la consommation à hauteur de 20 000 euros, je me suis endetté, uniquement dans ce but-là. Ce qui a amené à une séparation très difficile avec un jeune enfant au milieu. Donc je suis l'exemple parfait, je serai la photo sur le paquet de clopes qui expliquerait pour les paris sportifs. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma vie de couple, j'ai perdu ma santé financière, voilà, ça fait 2 ans que du coup l'interdiction de jeu, comme vous dites, je l'ai appliquée. Donc je m'en sors à peu près aujourd'hui, mais c'est un long chemin.
Jules, parce que donc vous êtes interdit, effectivement, vous vous êtes interdit, mais on comprend bien que c'est tellement plus fort que ça. Qu'est-ce qui fait que vous n'y retournez pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche d'y retourner?
La joie que ça me fait de voir mon fils encore malgré tout ça. Honnêtement, j'ai cru que j'y arriverais plus et aujourd'hui j'arrive, donc.
Vous nous dites que vous avez joué pendant des années. Je voudrais savoir à quel moment vous vous êtes senti tomber, en fait.
Il y a de ça 3 ans à peu près.
Et ça faisait combien de temps que vous jouiez après
J'ai commencé par le poker en ligne il y a 5-6 ans, qui m'a amené au paris sportif parce que c'était évidemment le même site qui proposait ça, en plus. Et étant fan de foot depuis tout petit, c'est vrai que ça m'a paru une aubaine, comme vous l'expliquez. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, j'arrive quasiment plus à regarder un match de foot tellement je ressens l'hypocrisie dans tout ça.
Bah écoutez, ça vous évite aussi, j'imagine, de replonger, d'ailleurs, de ne pas regarder le foot. Il vous a fallu du temps, vous nous le dites, c'est très long à remonter aujourd'hui.
Mais comme toute addiction, on n'en sort pas, on n'en sort pas du jour au lendemain.
Et j'allais vous demander si la tentation n'était pas justement une addiction à autre chose en termes de jeu d'argent, c'est-à-dire que ce n'est pas les paris, mais c'est les trucs à gratter ou les choses comme ça. Est-ce que vous la sentez, cette fragilité, et vous faites extrêmement attention, ou est-ce que maintenant...
Voilà, quand on est addict à quelque chose, je pense que c'est un terrain propice à toutes les addictions possibles. Au final, c'est de la vigilance de tous les instants pour quand on se passionne pour quelque chose, arriver à se rendre compte du moment où.
En tout cas, Jules,
il faut s'arrêter.
Merci beaucoup. Et le simple fait d'en parler, merci vraiment, Jules. Thomas Amadieu, on se dit qu'il a fait le principal, il a fait le vrai pas nécessaire, Jules, pour s'en sortir, en fait, à partir du moment où on le prend dans la gueule pour dire les choses, et c'est exactement ce qui lui est arrivé.
Oui, et c'est ce que dit Jules est absolument frappant, et ce qu'il décrit sur les conséquences pour son entourage. On estime qu'un joueur addict va entraîner avec avec lui 6 personnes autour de lui, va avoir un impact sur 6 personnes autour de lui en moyenne. Donc il y a des dommages qui sont très, très réels et pouvoir sortir et remonter la pente est difficile. Et il faut bien souligner, on parle depuis le début de la possibilité de se faire interdire, d'essayer d'arrêter, etc. Mais on fait encore une fois poser, et je voudrais répéter
toute ce que dit Myriam Sali,
on fait poser
joueur,
la responsabilité absolument. Sur le joueur avec très peu de soutien finalement. Qu'est-ce qui est proposé en termes de suivi psychologique et en amont aussi. Donc il faut vraiment se questionner sur cet aspect-là, d'autant qu'il faut rappeler que les opérateurs de jeu eux-mêmes ont la responsabilité d'identifier les joueurs en perte de contrôle.
Qu'est-ce qui se passe quand un opérateur voit arriver le même, parce que c'est facile, hein, c'est un numéro de carte bleue ou un IBAN, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas on voit que c'est le même parieur. C'est quoi l'obligation de la plateforme Myriam Savy si on voit le même nom?
Alors, bah, si la personne...
Et surtout, ça marche à quel degré? Parce que si c'est au bout de 20 000 euros, effectivement, c'est très très loin.
Oui, alors ils ont des obligations de mettre en place des mécanismes. Quand on va sur le site de l'Autorité Nationale des Jeux, on voit aussi les sanctions qui sont prises parce que justement, ces mécanismes ne sont pas toujours mis en place et bien appliqués. Donc il y a ce que dit la théorie et ensuite il y a la pratique.
Est-ce que ça veut dire qu'ils s'assoient sur les sanctions ou qu'ils ne vont même pas jusqu'à la sanction?
Il y a des sanctions qui sont prononcées pour ce type de non-respect en fait de la mise en place de ces mesures de protection. Mais voilà, la question c'est pourquoi attendre d'être sanctionné pour le faire alors qu'ils vont dire que leur intérêt n'est pas d'avoir des addicts. Alors, or, comme vous l'avez très bien dit au début de l'émission, on sait que leur chiffre d'affaires il repose d'abord sur les personnes qui ont des problématiques
évidemment,
de jeu.
63%, c'est quand même le chiffre qui m'a le plus frappé. 63% des gens qui remplissent les poches de ces sociétés-là sont des gens qui sont déjà addicts. On a ce mail de Florence qui est très émouvant, qui dit « Mon fils de 25 ans est addict au jeu depuis 3 ans à ce genre de jeu. Il nous l'a avoué, très dépité, très malheureux en mai dernier. Depuis, il a vu des psychologues, mais l'addiction ne passe pas. Il est endetté auprès des banques. Il n'a plus d'argent dès le 5 du mois. » Et elle nous dit ceci, Florence, elle dit « Il faut que les banques interdisent les crédits à la consommation quand ils constatent où passe l'argent dépensé, car je trouve que tout cela est plutôt pervers. » Et il vous demande, à vous, professionnels, s'il faut que ce soit eux, les parents, en fait, qui aillent voir un médecin addictologue qui peut-être pourra les aider, pour leur donner des clés qui permettront d'aider leur fils, Myriam Savy.
Oui, alors c'est important, face à l'addiction, de ne pas rester seul. Les proches sont évidemment les premiers impactés. Et donc, il y a des dispositifs d'accompagnement. Nous, à Addiction France, on gère des centres d'addictologie qui sont à la fois pour aider les personnes qui ont un problème d'addiction, mais aussi pour aider l'entourage. Et chez les jeunes, il y a un dispositif qui s'appelle les consultations jeunes consommateurs, où on peut venir, c'est gratuit, et on peut parler de toutes les addictions et on se fait accompagner, soit pour soi-même, soit pour son enfant, pour savoir comment réagir, comment ne pas aussi surréagir, comment ne pas culpabiliser, parce qu'en fait, dans l'addiction, il y a aussi un problème d'auto-stigmatisation et en fait, on va se sentir nul et plus on se sent nul, plus en fait, on va consommer.
Mais pourquoi j'y arrive pas? Enfin, je veux dire, je suis vraiment super nul. Enfin, c'est ça, j'imagine qu'on entend.
Le slogan « quand on veut, on peut », ça marche pas pour l'addiction,
bien sûr,
en fait.
Évidemment, ouais. Là, notre auditrice, elle nous dit « il faut interdire les crédits à la consommation », sauf que évidemment, on ne sait pas pourquoi on prend un crédit à la consommation. Est-ce que, là aussi, c'est l'une des barrières, être beaucoup plus sévère sur la justification qui fait qu'on demande un crédit à la consommation? Théoriquement, on est censé, pour certains crédits, dire « je voudrais acheter une voiture, voici la somme, donc merci de me prêter cette somme-là, etc. » Est-ce qu'on peut être plus vigilant, aller chercher donc du côté des crédits à la consommation,
Y a la question
si on a du mal avec les sociétés de Paris?
Il y a la question générale des crédits à la consommation.
De toute façon, quoi qu'il arrive, pour le surendettement,
ce serait l'objet d'une autre... notre émission. Après, c'est vraiment la pression publicitaire qu'on met aujourd'hui pour... En fait, on produit des addicts et on va en produire de plus en plus. Et nous, c'est vraiment la sonnette d'alarme qu'on veut tirer en disant « voilà, aujourd'hui, la réglementation, elle est assez récente. On voit les conséquences aujourd'hui, mais si on ne fait rien, ça va aller de pire en pire. Les budgets publicitaires, ils augmentent. On est à pratiquement 700 millions d'euros en 2025, alors qu'il n'y a pas de compétition sportive cette année. L'année prochaine, c'est la Coupe du Monde de football. À combien vont être les budgets de publicité. Et en fait, cette publicité, elle a un seul but, c'est attirer de nouveaux joueurs, de nouveaux parieurs, et on va créer les addicts de demain.
En préparant cette émission, je regardais, mais c'est dans votre rapport d'ailleurs, quels sont les pays qui ont interdit, et c'est édifiant, parce qu'ils sont tous en train de sortir les avirons, pour dire les choses très clairement. L'Australie a décidé, elle, de restreindre le temps horaire, c'est la parade qu'ils ont trouvée. J'ai vu que la Belgique avait été effectivement extrêmement loin, ça date de 2023, mais j'ai vu que l'Espagne voulait faire la même chose, mais ça tire énormément du côté des sociétés de paris en ligne. L'Italie essaye de le faire également, mais ça tire terriblement aussi de ce côté-là. Ils sont en train d'essayer d'imposer des normes de jeu responsables pour pouvoir s'en tirer. Il y a le Royaume-Uni, pareil, alors c'est encore plus pervers, parce que ce sont les sociétés de paris en ligne qui financent les petits clubs. On a l'impression que tout le monde, Thomas Amadieu, a fait le même constat, et tout le monde sort les avirons. Personne n'a trouvé le remède miracle, en fait, y compris avec des lois restrictives.
Alors, le remède miracle, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on peut l'expliquer. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'on est en retard par rapport à nos voisins européens. Mmh. Et alors, c'est fascinant. Effectivement, vous parlez de l'Australie, vous parlez de la Grande-Bretagne. En fait, c'est des pays qui ont été à la pointe sur l'ouverture à la concurrence, la libéralisation de ce marché, qui ont vraiment ouvert comme ça les portes très grandes aux opérateurs de jeux. Et ils reviennent en arrière. Et il faut qu'on s'en inspire, au contraire, et de se rendre compte que, en fait, tout est bon à prendre. Alors, vous avez raison de souligner qu'il y a des lobbies en face.
Ça tiraille énormément.
Il y a des arguments qui vont être avancés. On va expliquer que ça va faire monter le jeu illégal. Ça, c'est le grand argument du lobby des jeux d'argent, qui explique que leur offre, finalement, est plus sûre, parce qu'on met en place du jeu responsable. Vous avez
en même temps, c'est intéressant que le Royaume-Uni soit dessus, parce que le pays des bookmakers, enfin, c'est bon, ils savent que c'est aussi que
Si les Britanniques parviennent à revenir en arrière, à imposer des restrictions sur la publicité, dans un pays qui culturellement effectivement accorde énormément d'importance aux paris sportifs et l'impact de la publicité des opérateurs de jeux en termes de sponsoring d'équipes de football est extrêmement important. S'ils arrivent à revenir en arrière, ça veut dire que nous aussi on peut le faire. Et donc il y a un constat commun, il faut avancer. Alors chacun y va un peu de ces tentatives de restrictions. Soit on limite le nombre de publicités, les moments, on interdit pendant les matchs, il y a différentes solutions. Il y a peut-être une solution plus simple qui est d'interdire par défaut, c'est ce qui est proposé par Addiction France dans son rapport, d'interdire par défaut, et puis ensuite, éventuellement, on autorise quelques exceptions.
C'est pour ça que vous faites la comparaison avec la loi E20, parce que c'est exactement ça, la loi E20. On interdit de toute façon, et il y a effectivement un certain nombre d'exceptions dans des cadres qui sont particuliers. Est-ce que vous avez regardé, j'imagine, est-ce qu'on pourrait vraiment faire un copier-coller paris sportif et alcool sur la loi E20? Enfin, vraiment, c'est le cadre, vous l'avez, en fait, c'est ça que je veux dire.
Oui, on l'a, et il faudrait revenir sur le cadre de la loi E20 de 91, hein, parce que sur l'alcool, il y a eu quand même pas mal d'affaiblissements depuis. Mais effectivement, on est sur une loi très intelligente qui a été un modèle en Europe pendant des années, parce que justement, elle interdit par principe, et ensuite, elle autorise. Donc, à partir du moment où c'est pas autorisé, et ben en fait, c'est interdit. Donc là, on pourrait interdire par principe la publicité pour les paris sportifs, et on l'autoriserait sur certains supports. C'est ce que font certains pays, l'Italie. Alors, vous avez dit, il y a les opérateurs de jeux qui sont
derrière et qui
essayent d'affaiblir ce cadre de régulation, mais c'est une voie à explorer, et on sait qu'on aura des publicités qui seront quand même beaucoup moins incitatives, qu'on réduira la pression publicitaire, on en verra moins. Si on l'interdit, si elle n'est pas autorisée sur les réseaux sociaux, on n'en verra plus, donc les jeunes n'en verront plus, ils seront plus incités à parier.
C'est surtout là qu'il faut taper, non ? C'est pas tellement les pubs à la télé, finalement, qui sont d'une redoutable efficacité. On a même un auditeur qui nous dit, moi j'ai remarqué que les pubs étaient présentes dans les quartiers populaires, évidemment. Donc ils savent évidemment où aller chercher leur clientèle, en fait.
Oui, elles sont à la télévision, c'est quand même important, parce qu'en fait, elles sont souvent juste avant le match ou pendant le match, pour dire, est-ce que vous avez parié ? N'oubliez pas de parier. Donc même la personne, je parlais du craving tout à l'heure, la personne qui s'est dit, allez, ce match, je ne vais pas parier. En fait, si elle veut regarder le match, et en fait, le sport, ça doit être un plaisir, c'est des valeurs importantes, on va pas dire aux gens, et donc c'est dommage quand...
Mais ce sont les joueurs de l'équipe de France qui font de la pub pour les paris sportifs, enfin ça fait partie du contrat même qu'ils signent en rentrant à l'équipe de France, qui est quand même un comble, hein, mais
c'est
une réalité.
C'est tout le sponsoring, effectivement, où quand on est enfant, on regarde un match de foot, on voit Betclic sur le maillot des joueurs, donc depuis qu'on est tout petit, on sait que ça existe, et on se dit, bah, dès que je pourrai parier, je vais parier.
Voici Jean qui est avec nous, bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
Vous allez être le porte-parole de beaucoup de nos auditeurs avec votre question, Jean. On vous écoute.
D'accord. Alors, je voulais savoir comment étaient taxées les sociétés de paris sportifs par l'État. Et parce que du coup, je me dis que l'État a peut-être intérêt finalement à ne pas tant protéger que ça ses citoyens, dans la mesure où ça fait peut-être une entrée d'argent importante dans des temps difficiles. Et du coup, je trouve ça potentiellement extrêmement pervers.
Qui veut répondre à cette question, Thomas Amadieu, Myriam Savy?
Je peux répondre. Effectivement, l'auditeur a raison de souligner que les jeux d'argent représentent une manne fiscale. Hein, c'est 6 milliards d'euros par an, tout jeu d'argent confondu. Donc, c'est des revenus qui sont très importants parce que on a des taxes qui sont sur les mises des joueurs, finalement.
Mais est-ce qu'on est dans la même hypocrisie que l'alcool et le tabac, en fait, avec toute une partie, évidemment, qui va dans la poche de l'État, qui est bien content de récupérer cette manne-là, pour dire les choses clairement?
Il y a une forme de rationalité à courte vue de voir cet argent, effectivement, qui rentre, cette ressource fiscale, et d'ignorer le coût social, parce que les économistes cherchent à le mesurer, l'ont mesuré dans un certain nombre de pays. En France, l'estimation qu'on peut faire, si on extrapole à partir de ce qui existe dans d'autres pays, c'est environ 15 milliards d'euros, un peu plus de 15 milliards d'euros de coût social. Le coût social, c'est les dommages qui ont été décrits dans les différents témoignages. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe sur l'entourage, qu'est-ce qui se passe en termes de soins, de dépenses de soins pour les hôpitaux, les structures, qu'est-ce qui se passe sur l'activité économique, sur les pertes d'emploi, sur la criminalité, etc.
C'est toujours des calculs à beaucoup plus court terme, évidemment.
Et ces calculs-là, on ne les fait pas et on ne se donne pas les moyens d'être un peu rationnel et de se dire ça coûte plus cher, en fait, ça coûte plus cher à la société.
C'est marrant, il y a Le Sage sur WhatsApp qui fait cette remarque et qui pense aussi aux sportifs ou aux sportives qui souffrent parce qu'ils subissent de la pression, voire des injures de la part de joueurs qui ont perdu, et ça existe vraiment. Et si c'est que des injures, pardon, j'y mets beaucoup de guillemets, parfois c'est bien pire que ça, évidemment, et ça peut être terrible. On a Christophe par mail qui dit ceci: qu'en est-il du rôle des émissions de radio ou de TV sur le sport, et notamment les journalistes sportifs qui font la promotion des paris en parlant notamment des cotes de chacun des joueurs? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement interdire, y compris ce type de vocabulaire, Myriam Savy? Et en tout cas, surtout pas se référer à ce qu'ont parié les gens, en fait, pour amener un commentaire.
Bah exactement, en fait, on est dans l'incitation et dans l'illusion de l'expertise. Et donc, si on revient à une loi où on a quelques autorisations, interdire la publicité à la télévision ou à la radio, ça permettrait d'éviter ce genre d'émission. C'est ce que font les influenceurs aussi. Hein. En fait, ils partagent leurs cotes, ils partagent leurs conseils, et la personne qui reçoit ces publications, souvent elle est jeune, elle peut être mineure, elle va se dire, puisque cet influenceur que je connais lui fais confiance, il est plus vieux que moi, donc en fait, lui, il sait, conseil.
La réponse des influenceurs, là, pour le coup, Myriam Savy, on la connaît, puisque vous nous avez raconté que ils en avaient strictement rien à faire pour dire les choses. En même temps, on a vu récemment qu'il y a quand même un œil, il y a une pub, on va donc pas citer la société de paris sportif, mais qui a dû faire tomber sa pub parce qu'on a considéré qu'elle n'était pas conforme. Enfin, ça arrive quand même, je vois faire bof avec la tête. Bon, ok.
C'est arrivé une fois.
Myriam Savy, ok, ouais, ok. Mais ma foi.
C'est arrivé une fois et on voit ce même opérateur fait beaucoup de campagnes de publicité. L'ANJ le souligne, hein, que ces campagnes de publicité vont très très loin, et pourtant elle ne l'a pas de nouveau sanctionné. Elle en fait encore une aujourd'hui, où elle fait une course dans l'espace pour aller sur la Lune, alors que les règles de l'ANJ prévoient qu'on n'a pas le droit d'associer le pari sportif à une expérience hors du commun comme un voyage dans l'espace. Ils le font quand même.
Ce qui est fou, c'est que à chaque fois qu'on parle d'addiction et de tenter les restrictions. Aujourd'hui, par exemple, sur le thème de la cigarette, il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans la société. Ça reste compliqué s'agissant de l'alcool, surtout dans un pays comme le nôtre. On a l'impression que là, dans ce compartiment-là, pour ce qui est des paris sportifs, on est au niveau zéro, Myriam Savy, en fait.
Ils
sont très forts, ils sont bien plus forts, peut-être même bien plus forts que le lobby potentiel de l'alcool ou celui des cigarettiers.
Ils sont très forts, mais je pense qu'aussi il y a une peut-être méconnaissance sens du sujet, ou ce rapport, c'est aussi pour arriver à une prise de conscience. La publicité pour les paris sportifs, on y est sensible si on joue. On est beaucoup plus sensible si on joue, et donc si on ne joue pas, peut-être qu'on ne la voit pas ou on la voit moins et on ne se rend pas compte du volume. On a aussi tous les systèmes de notifications, les envois de mails, de SMS qu'on reçoit quand on a déjà parié, et donc en fait on va être ciblé quand on parie déjà, mais quand on ne parie pas, on ne se rend pas compte, en fait, de toutes les incitations qu'on peut avoir à parier.
Il existe des médicaments qui ont des effets indésirables contre les addictions au jeu. Est-ce que c'est suffisamment encadré, nous dit Claudine? Est-ce que vous vous ouvrez des yeux comme les nôtres, comme les miens, en parlant de ça ou pas? Oui, visiblement, Thomas Amadieu aussi.
Ça a été... effectivement, dans la littérature scientifique, on a identifié des mécanismes liés notamment au traitement contre Parkinson. C'est peut-être à ça dont il est fait référence. Mais sur l'encadrement, au-delà de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments, à ma connaissance, il n'y a rien qui relèverait de l'autorité nationale des jeux et spécifiquement de loi sur les jeux d'argent par rapport à ça.
Beaucoup d'auditeurs qui nous disent encore une fois jusqu'à quel point l'État n'agit pas non plus dans son intérêt, mais dans l'intérêt de certaines boîtes privées, en tout cas à court terme. Il y a aussi un auditeur qui nous parle d'animateurs qu'il écoute, pour le coup, dans une autre radio, mais où on parle beaucoup de sport et où on parle beaucoup de paris, mais au fond, même les animateurs parient eux-mêmes. Donc ça montre, Myriam Savy, le chemin qu'il vous reste à parcourir.
Oui, on est dans une banalisation totale du pari sportif. Aujourd'hui, le pari s'est associé au sport. On veut absolument le rendre complètement indissociable, incontournable. On a des slogans comme « et le sport se vit plus fort », alors qu'on peut tout à fait, et on l'a tous vécu, je pense, regarder un match de foot à gros enjeux et vivre des superbes sensations rien qu'en regardant, avec le plaisir de regarder le sport et sans attendre un gain à côté.
Mmh. En tout cas, je retiens aussi ce chiffre, c'est dans votre rapport que je l'ai lu, 1% des joueurs seulement gagnent plus de 1000 euros par an. Ça veut dire qu'on perd à tous les coups.
Eh ben on perd, oui,
enfin,
on perd.
Enfin, beaucoup de coups. Merci beaucoup, merci à tous. On embrasse Jules surtout, et bon courage pour la suite de son retour vers la vie et vers sa famille. Merci vraiment. La question des petits bateaux ce soir, c'est celle de Daphné.
Pourquoi y a-t-il des odeurs chez les gens qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas? Merci, au revoir.
La réponse dans 3 minutes.